Cours de philosophie critique par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 14 mai 1993.
Comment préciser le statut réel d'un principe découvert dans l'induction? Il est réel, mais n'est pas la réalité. Qu'est-ce à dire au plan critique? L'univers bradé. Différence spécifique, rationnelle. l'ébriété est capable de rire, et ainsi de suite. Il est chaud. Mais, donc vous avez là tous les cinq prédicats. Ça, il faut le savoir, et il faut réfléchir sur les cinq prédicables. C'est très très intéressant de lire un article de journal avec la critique des cinq prédicables. Faites ça. Un vieux journal que vous avez. Et lisez un article en l'analysant avec les cinq prédicables. Vous verrez toutes les fautes qu'il y a. C'est extraordinaire. Les cinq prédicables. Vous définissez avec les cinq prédicables. Vous saisissez les propriétés, les choses accidentelles. Et ça existe dans toutes les langues. Les cinq prédicables, c'est la structure fondamentale d'une intelligence qui saisit le réel à travers les cinq sens. Vous avez cinq sens de contact, hein, les sensations, le toucher. Le toucher me permet de comprendre ce que c'est que le genre. La différence spécifique me permet de comprendre ce que c'est. Je veux dire, la vue me permet de comprendre la différence spécifique. C'est la structure d'une intelligence incarnée, du moins une intelligence qui se sert du corps, qui se sert des sensations. Un ange ne pense pas, demandez-lui, à votre ange gardien. Il ne pense pas avec les cinq mots. Regarde ça, tiens, il est curieux, ce petit bonhomme, il pense avec les cinq prédicables. L'ange a une connaissance intuitive. Tandis que nous n'avons pas une connaissance intuitive. Nous avons une stratégie à cinq dimensions pour saisir ce que c'est que l'homme. Les cinq prédicats n'existent que pour l'homme. Si vous voulez saisir l'araignée, vous n'avez pas besoin de cinq prédicats, vous en avez trois. Le genre, le propre et l'accident. Et toutes les définitions classiques que vous voyez des animaux, c'est les trois prédicables. Il y en a deux de plus pour l'homme et qui sont propres aux philosophes. Et alors c'est une manière de distinguer la science de la philosophie. La philosophie se fonde sur cinq prédicables et la science sur trois. Puisque je ne saisis jamais la différence spécifique propre de l'araignée. Et je saisis sa propriété. La piqûre de telle araignée est mortelle. C'est une propriété, ça. Il a cette défense particulière de pouvoir piquer l'homme de manière telle qu'après est un cadavre. Et l'araignée peut circuler sur lui sans que l'homme la tue. C'est admirable. Une petite bête, rien du tout. Elle a ce venin qui fait ça. C'est une propriété, ce venin. C'est pas une différence spécifique. Oui, alors toutes les sciences reposent sur trois prédicables. Et la philosophie repose sur cinq prédicables. C'est la différence fondamentale de la philosophie par rapport aux sciences. Ceux qui n'acceptent pas la différence entre science et philosophie, on leur montre là. Oui, pour les positivistes, ils réduisent la connaissance à trois prédicables. Donc il y a tout un secteur qui s'élimine, sans le savoir. Abstraction. Abstraction formelle. Saisie des principes propres. Pour saisir les principes propres, il faut l'abstraction formelle. Vous saisissez les principes propres de la philosophie. Et ces principes propres de la philosophie saisis dans un jugement. Applique. Une ratio des rationes, analogue à l'acuité. Mais dans tout principe, saisi dans un jugement, il y a une appréhension. Et l'appréhension saisit quelque chose de fondamental. Le quelque chose de fondamental au point de vue intelligibilité, ce n'est plus l'acuité. Je ne suis plus au régime quantitatif. Je suis au niveau de l'analyse philosophique qui saisit les principes propres. Donc, si je veux saisir le statut particulier du principe, je saisis toujours ces deux abstractions. Vous voyez ? Et le contenu intelligible du régime principe propre à deux niveaux différents. Vous voyez, ce qui est très délicat, c'est que saint Thomas n'explicite pas ça. Et la scolastique l'a répété sans le comprendre, puisque la scolastique décadente ne parle plus de l'induction. Je ne comprends parfaitement la distinction de l'abstraction universelle et l'abstraction formelle quand je cherche en la universelle, l'abstraction formelle. Et c'est l'induction. Il y a deux types d'induction. Il y a une induction spontanée sur laquelle je ne réfléchis pas. J'ai fait l'expérience dans ma vie. La neige est blanche, la chemise est blanche, le visage est blanc et j'induis blanc. À quel moment avez-vous induit blanc? Vous ne le savez pas. C'est la question qu'il faut poser aux psychanalystes. Je l'ai posé. Alors, ils étaient très gênés. Ils ont dit, on ne sait pas. Alors, c'est embêtant. Ne pas connaître le moment où vous êtes intelligent. Où l'intelligence émerge. Et on émerge de catacombes. C'est ce qui montre que la psychanalyse ne tient pas. Parce que pour pouvoir vraiment corriger, il faut saisir la première déviation. Vous comprenez ? Quand vous êtes en face d'une grande première déviation, seconde déviation, troisième déviation, quatrième déviation, vous ne savez plus très bien où vous en êtes. Pour pouvoir vraiment, il faut retrouver la première déviation. Si vous êtes très intelligent, vous remontez. Là, vous vous trompez. Je me suis trompé. Alors, quel moyen ? Surtout la nuit. Surtout la nuit. Alors on revient. Puis on se trompe forcément. Et si vous croyez que c'est là la déviation fondamentale, vous reconstruisez à partir de là, vous êtes encore dans l'erreur. Il faut retrouver la première déviation. Et la première déviation, c'est le moment où l'intelligence confond la représentation et la signification. Toutes les déviations qui sont dans votre vie, c'est la confusion de la représentation et de la signification. La représentation, c'est l'imaginaire. La signification, c'est l'intelligence. Le genre a une signification. Et vous ne pouvez pas représenter le genre. Représentez-moi le genre animal. Hein ? Vous ne pouvez pas. Puisque l'animal n'est rampant, l'animal a quatre pattes, l'animal a deux pattes, l'animal a mille pattes, l'animal... Alors représenter ça, c'est impossible, absolument impossible, vous ne pouvez pas représenter. C'est abstrait, et ça a une signification. Tandis que vous pouvez représenter le chat, caricature du chat, et montrer que certaines têtes humaines sont comme des chats. C'est tout l'art du caricaturiste. Par rapport aux dignitaires de la République. Alors, on dit des têtes de chat, celui-là, têtes de d'ours. Et le caricaturiste saisit ça immédiatement. Puis, il a moins de petits détails, puis il laisse tout tomber. Mais il met un signe. Mais c'est intéressant de voir que la déviation première, c'est la confusion de la représentation et de la signification. Alors là, vous mettez en boîte les psychanalystes. Parce que cette trigrure, on est dans les catacombes. Les premières catacombes, c'est le sein maternel. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans ces catacombes? Ça n'est pas très bien. La mère a une secousse particulière. Elle a envoyé pour les fécondations artificielles. Vous supprimez les catacombes. Ah! Et vous croyez que vous arriverez au même but? Déviation à ce moment-là, fondamentale. Et on est en train de manipuler une humanité nouvelle, sans savoir ce qu'elle donnera. C'est quand même très important. Donc. Vous voyez donc cette petite distinction du principe et de bien. Mettez toujours les deux en parallèle, ça c'est clair. Le réel présent dans le genre, le réel présent dans les rationes, présent dans les jugements propres. Vous comprenez que le réel présent dans les prédicables est différent du réel présent dans les principes propres. Pas le même réel. Alors, qu'est-ce qui pourrait me dire la différence de réel entre les deux? Le réel des principes est toujours lié à l'existence. Le réel des prédicables n'est pas lié à l'existence. En acte, je veux dire. Ce qui fait comprendre comment la fémulogie, qui elle réfléchit sur les prédicables, sans le dire, mais entre parenthèses existence. On cherche le prototype table dans une méthode fémulogique pour trouver le premier. C'est une méthode d'archéologue. C'est au fond l'analogue de la psychanalyse au niveau de l'intelligence. Quel est le fondement premier sur lequel tout le reste est bâti? Où je retrouve un réel sauvage. Est-ce que vous voyez bien ça? Parce que c'est très très important de saisir ces deux registres de ma vie intellectuelle. Et vous comprenez que ce registre de l'abstraction universelle, est relativement simple, puisqu'il n'y a les cinq prédicables. Tandis qu'ici, c'est toutes les sciences. Alors, et c'est les sciences et la philosophie. Et l'abstraction formelle du mathématicien et l'abstraction formelle du philosophe sont différentes. Et c'est là où on doit saisir la différence entre le mathématicien et le philosophe. Puisque les autres sciences se formalisent en fonction des mathématiques. Donc c'est les mathématiques qui joue ce rôle par rapport à toute la découverte des autres sciences. Une science demande d'être formalisée. Il n'y a pas 36 manières de formaliser. Il y en a deux. Il y en a une fondamentale et prédicable. L'autre, les principes. En mathématiques, quels sont les principes qu'on saisit? Cause exemplaire. Tout est bâti sur la cause exemplaire. Et les relations de la cause exemplaire et de la cause matérielle, qui est le divisible. Et tout est bâti là-dessus. Une fois que vous avez saisi ça aussi, c'est tout. Et cela est appliqué à toutes les sciences. En philosophie, vous avez la recherche des cinq principes propres. comprenez que, parce que le philosophe s'intéresse à l'homme, donc le philosophe a 5 prédicables. Le mathématicien a-t-il combien de prédicables? Analysez tout simplement une démonstration mathématique et cherchez dans la démonstration mathématique la plus simple, géométrique, que vous avez récitée dans le temps, sans penser au prédicable. Et maintenant, je vous dis pensez au prédicable et vous verrez qu'il n'y a que 3 prédicables. Et par le fait même, avec 3 prédicables, je ne peux pas saisir les 5 principes. Je découvre les 5 principes que quand j'analyse l'homme. Je devrais être quand même un tout petit peu intelligent de comprendre que j'ai un trésor devant les yeux qui est l'homme, qui est quand même la réalité la plus parfaite qui soit, que je peux expérimenter. Je néglige ça. Je réduis l'homme à l'animal et c'est ça qui m'intéresse. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Il faut saisir les choses, et c'est le propre de la critique de saisir les choses dans les éléments. Vous voyez, quand on fait ça devant un psychanalyste, il est très impressionné. C'est comme ça qu'il m'avait dit, vous avez raté votre vocation, vous auriez dû être psychanalyste. Je dis non, j'ai beaucoup mieux. La philosophie est infiniment mieux. Et on est impressionné par la psychanalyse. Comme on est impressionné par la psychologie. Pourquoi? Parce que ça nous touche plus immédiatement. Quand on est malade, le philosophe, il vous guérit pas. Donc vous êtes évité la maladie en étant philosophe. Si on était plus conscient de ce qu'on est, on serait moins malade. Ça, j'en suis sûr. Parce que l'intelligence, l'âme informerait mieux le corps. Tous les refoulements d'informer le corps. Et on laisse l'imaginaire. Et c'est l'imaginaire qui va dans tous les sens. Et pour l'imaginaire, pour guérir, vous comprenez, il faut trouver le premier, la première déviation. Dès qu'à faire l'expérience la nuit, hein. Première déviation, deuxième déviation, troisième déviation, puis dites maintenant, elle a retrouvé. Hein. Vous êtes sûr de vous tromper. Parce que c'est le mouvement inverse, vous comprenez? On a vécu, on a vécu ça. On a vécu de cette manière-là. Et parce qu'on a vécu de cette manière-là, peut-on vivre de l'autre manière? C'est tout à fait différent. Or, on a vécu cette manière-là dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et on veut redécouvrir l'inverse, mais non. C'est pas le même chemin. L'aller et le retour ne sont pas le même chemin. Je regrette. Les vieux philosophes grecs disaient déjà ça. D'Athènes à Sparte, c'est pas la même chose de Sparte à Athènes. Rimons à Paris, Paris, Rimons, c'est pas la même chose. Est-ce que vous devez faire une partie en autocar ou en auto et l'autre partie en train? L'autre partie, c'est en train, puis l'autocar, vous vous trompez. Il faut beaucoup réfléchir là-dessus, parce que ça fait comprendre comment la critique philosophique est capitale. Elle nous montre fondamentalement les erreurs. Bon. Oui, oui, dites. Existentiellement, c'est la même réalité, ce que vous dites, au niveau du POS. Au niveau du principe. Au niveau du principe, l'âme est toujours distincte de la substance. Et c'est dans mon intelligence.
Oui,
l'Église. Oui, je fais cette distinction parce qu'il y a deux inductions différentes. L'induction de l'âme et l'induction de la substance ne sont pas les mêmes. L'interrogation que je pose à l'induction de l'âme et l'interrogation que je pose pour l'induction de la substance n'est pas la même. Donc j'aboutis à la découverte de deux principes distincts. Ces deux principes distincts demeurent les mêmes. Mais maintenant, je reviens au pose l'homme. Je vois que pour l'homme, pour moi, ma substance est mon âme. Et mon âme est ma substance. Je dis mon âme est ma substance. Vous voyez ? Donc je suis au niveau du pose existentialisme. Je suis au niveau de l'existence, de l'existentiel, du pose, et non plus au niveau des principes. Au niveau des principes, l'âme et la substance demeurent deux principes distincts. Dans l'analyse philosophique, la raison formelle de la substance est distincte de la raison formelle de l'âme. Donc au niveau des rationes, c'est distinct, mais c'est pas du tout séparé. Mais ce sont deux principes réels. Mais la réalité existante fait que mon âme, c'est ma substance. Et ma substance, c'est mon âme. Et pour comprendre ça, je reviens à l'expérience. Au jugement d'existence. Oui. Au fond, le TST et le Bose, si vous voulez. Alors si je confonds le TST et le Bose, je fais un marécage. Et j'ai philosophiquement des fièvres paludiennes. Je confonds tout. Je confonds l'être et la vie. Et je m'aperçois au terme que ça a beaucoup d'inconvénients. Parce que si vous confondez l'être et la vie, que vous ramenez l'être et la vie, vous ne pouvez plus découvrir l'existence de Dieu. Et si vous ramenez la vie à l'être, vous tombez dans un essentialisme où vous perdez cette expérience affective de l'âme. Et c'est ça qui est très difficile, c'est de maintenir les distinctions propres tout en comprenant le réalisme du pose. C'est pour ça que j'insiste tellement sur le « je suis ». Parce que là, j'ai une expérience de l'être unique. Et une fois que j'ai compris ça, je ne peux plus confondre le TST et le pose. Et ça, c'est capital. Tant que je n'ai pas distingué vraiment le TST, qu'est-ce que c'est, et le pose, comment, je ne vois pas la distinction entre philosophie et psychologie. Et j'oublie la distinction entre devenir et être. Et je suis tout de suite bloqué. Il y a quelques petites distinctions fondamentales qui reviennent tout le temps, à des niveaux différents. Alors, on y tient beaucoup et ces distinctions deviennent de plus en plus nettes. Et plus elles deviennent nettes, sans du tout tomber dans la séparation. Tout s'éclaire au niveau de l'être, au niveau de la vie, au niveau des opérations humaines, et ainsi de suite. Parce qu'au niveau des opérations humaines, la psychologie se situe. Au niveau des opérations humaines, il y a la même chose. Quelle est la signification d'une opération volontaire ? Pour moi, c'est la finalité. Une opération n'est vraiment humaine que quand elle est finalisée. Si je mets entre parenthèses la finalité, je ne saisis plus l'opération humaine comme opération humaine. Je ne saisis plus la distinction entre la durée et le fin-durée. Et je tombe dans un marécage psychologique. Oui. Et ça, c'est élémentaire, n'est-ce pas ? Une opération humaine n'est humaine que si elle est finalisée. Si je mets entre parenthèses la finalité en disant ça, si j'emploie le mot, c'est ce que disent les psychologues, si j'emploie le mot finalité, il y a des quantités de gens qui ne m'écouteront plus. Donc, je ne l'emploie pas pour que tout le monde m'écoute. Donc, vous avez opté pour l'extension, contrairement à l'intensité, à la spécification. Vous avez opté pour la sincérité contre la vérité. Votre témoignage de sincérité, tout le monde peut l'accepter. La vérité, ça exige un dépouillement. Alors, si on cherche la vérité, mais on accepte. Regardez, discours du chapitre 6, Jésus savait très bien qu'en disant ma chair est vraiment une nourriture, une quantité qui traîne. Alors il aurait pu s'arrêter là. La finalité n'est plus donnée. Et c'est tout le temps comme ça. Alors c'est ça qu'il faut essayer de saisir au point de vue critique. La critique a l'avantage, c'est qu'on est sur une arête. Là, c'est pas commode, on est sur une arête, sans tomber dans le vertige. Mais on est sur une arête. Et elle revient tout le temps à ça. Et si on ne voit pas ça, c'est pour ça que c'est si important, abstraction formelle, abstraction universelle. Deux registres intellectuels. Le registre commun, le registre scientifique. Et dans le registre scientifique, la différence entre l'abstraction formelle mathématique et l'abstraction formelle philosophique. C'est la première, celle-là. Et puis ensuite, vous verrez la différence entre l'abstraction de telle ou telle science, des sciences humaines, donc de la psychologie, et l'abstraction philosophique. C'est très, très important. Alors vous voyez, hein, je reviens à ça, parce que c'est quand même très important. Si vous voulez faire une science psychologique en dépendance des mathématiques, vous acceptez trois prédicables et non pas cinq. Forcément, les mathématiques, trois prédicables. Et toute science subalternée aux mathématiques, trois prédicables. Par le fait même, vous... La psychologie de l'homme est analogue à celle de l'animal. Parce que c'est justement les deux prédicables que vous abandonnez, que vous acceptez d'abandonner, qui exigent le principe de finalité. Et donc le principe de finalité demeure un principe métaphorique. Ce que dit Don Scott. Et si vous ne voyez plus le principe de finalité, comment distinguer la philosophie de la psychologie? L'éthique de la psychologie, vous ne pouvez plus. Alors vous direz, vous voyez, non, la compétition philosophique et psychologique, ils sont tout le temps en dualité. Vous voyez, la psychologie donne des détails bien plus concrets. Mais non, beaucoup moins concrets, parce qu'il n'y a plus de finalité. Et la finalité seule me permet de rejoindre le concret humain. Mais c'est très vrai, le développement du côté quantitatif, du côté divisible est bien plus complet. Et là, on est à la charnière. C'est pour ça que c'est très important d'y réfléchir. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? C'est tellement capital que je voudrais que vous en ayez l'évidence critique. Il faut plus en avoir l'évidence critique, parce que c'est élémentaire. Comment montrer au plan critique que l'acuité d'une chose et garder dans la réalité, bien qu'elle soit saisie de façon distincte par l'intelligence. Tout simplement, c'est qu'on intelligence. l'intelligence dépend de l'expérience, donc de la réalité. Si je partais de l'idéal, ça serait tout à fait différent. Vous voyez ? Donc, c'est très juste cette question par rapport aux idéologies. L'idéologie rejoint le réel en appliquant ce que j'ai formé en moi, exactement comme un raisonnement mathématique. Mais l'idéologie, comme les mathématiques, ont toujours un certain fondement réel. Les mathématiques ont commencé par l'expérience. Un petit caillou, un autre caillou, un troisième caillou, un quatrième caillou. C'est l'expérience, ça. Quatre. Le nombre. Puis j'ai supprimé caillou. Et j'ai eu quatre. Une fameuse abstraction, ça. Qu'est-ce que vous faites quand vous passez de quatre cailloux à caillou? Vous abstrayez le caillou. Or, le caillou seul existe, puisque le nombre 4 n'existe qu'en fonction des cailloux. Et vous formalisez 4. Et vous ne retenez plus que 4. Vous êtes dans la même relation. Et la réalité devient une relation formelle. Et non plus le caillou. Le chemin d'existence disparaît. Mais c'est très élémentaire, tout ça. Mais parce que c'est élémentaire, on n'y réfléchit jamais. Oui. On veut rejoindre. Oui, c'est la parole d'Aristote qui est si importante. Les petites confusions à la source amènent de très grandes variétés au terme. Aujourd'hui, on est devant un développement massif des sciences. Extraordinaire. Notre siècle est un siècle de développement dans l'extension étonnant. Et on regarde ce développement et on regarde le petit filet philosophique qui, lui, ne s'est pas beaucoup étendu, au contraire. D'une certaine manière, il a diminué. Alors, la quantité l'emporte sur la qualité. Et quand la qualité l'emporte sur la qualité, on veut comparer. On compare les conclusions et non pas remonter à la source. Si vous remontez à la source, là, vous ne pouvez pas nier cette chose très simple que seul le philosophe parle des cinq prédicats. C'est une évidence. Et ces cinq prédicats, il ne les a pas inventés. Il les a découverts dans l'homme. Parce que son expérience, c'est l'homme. Alors quand vous découvrez que l'expérience philosophique, c'est l'homme, vous comprenez que c'est ça qui intéresse le philosophe. Et quand il est en face des mathématiques, oui, l'homme est rejeté. C'est un petit caillou. Pour le matheux, l'homme est un petit caillou, ça revient au même. Cinq hommes, cinq cailloux, ça revient au même. Cinq n'est pas changé. Si c'est cinq cailloux, cinq hommes. C'est exactement le même. Vous avez là une abstraction formelle. Et à partir de là, si vous oubliez ça, vous ne rejoindrez plus. C'est pour ça que la première distinction entre philosophie et science va venir entre 5 et 3. Alors là, je bats le savant, puisqu'il y en a 5. Et que le savant n'en a que 3, il est battu d'avance. Oui.
Vous avez dit que dans l'analyse philosophique, où on cherche les principes, oui, on saisit quelque chose qui est au-delà de la qualité.
Ben oui. Et l'acuité, quand je dis au-delà, ça ne veut pas dire que je supprime l'acuité. L'au-delà ne veut pas dire que je supprime l'acuité. Vous faites de la distinction, une séparation. Je distingue acuité et rationnesse. Je distingue le régime de connaissance au niveau de l'abstraction universelle et l'abstraction formelle. Mais l'abstraction universelle demeure tout le temps. Vous avez, d'une façon tout à fait élémentaire, le blanc du mur. Blanc, blancheur. Est-ce que dans l'abstraction blanc, blancheur, cette abstraction-là existe encore? Ici, une idée. Ici, raison. Rationnelle. Dans l'abstraction blanc-blancheur, l'abstraction blanc-dur, qui donne la quidité du blanc, elle est présente. Elle est en acte. Est-ce que vous voyez ça?
D'un rêve concret,
ben oui, exactement, l'expérience. J'ai l'expérience du blanc du mur. Je n'ai pas l'expérience de la blancheur. Quand vous dites que vous avez l'expérience de la blancheur, vous dites c'est dangereux. Il y a quelque chose qui ne marche plus. C'est un rêve. Vous représentez la blancheur. Vous êtes gentil. On se représente la blancheur. Alors on fait une affiche. Oui, imaginativement, vous représentez la blancheur. Mais vous savez très bien que c'est imaginatif, que c'est pas le réel. Vous n'avez jamais touché la blancheur avec votre œil. Jamais, jamais. Tandis que vous avez vu le blanc du mur, vous avez vu la lumière qui se réfracte sur le mur. Oui, oui. De là, vous abstrayez blanc. C'est une abstraction universelle. Et de là, vous abstrayez de blanc-blancheur. C'est curieux, ça. Hein, ce besoin d'intelligence d'aller toujours plus loin dans la structure des choses. Je passe de quidité à rationnel. Oui. Donc, l'abstraction universelle est en acte, présente en acte dans l'abstraction formelle. Elle est nécessaire, condition sine qua non pour que l'abstraction formelle existe. C'est ce que Aristote dit quand il dit tout simplement que l'universel est la condition nécessaire pour que la science existe. Si l'intelligence n'arrivait pas à saisir ce que c'est que l'universel, elle ne veut pas saisir ce que c'est que la science. La science est au niveau de l'universel. Donc il est bon de saisir la naissance de l'universel. Et à quel moment la naissance de l'universel? La naissance de l'universel, c'est tout simplement quand je passe de blanc du mur à blanc. Et cette abstraction universelle, elle se fait dans cinq modalités.